le roi Saül, le premier roi d'Israël, chers amis de Radio Présence. Et cette histoire, nous la suivons tous les jours et dans les semaines qui précèdent le carême actuellement, l'histoire de Saül et de David. Donc le roi Saül, le premier roi d'Israël, n'a pas cherché, n'a pas brigué cette mission. Il l'a reçue donc de manière très étonnée et il a été un peu roi malgré lui. Et sa faute pourrait bien être de ne pas prendre au sérieux le choix que Dieu a fait de sa personne. Rester petit à ses propres yeux est une vertu, certes, que l'on nomme humilité. Et c'est celle de la Vierge Marie, mais qui a dit en même temps, le Seigneur a jeté son regard sur son humble servante, mais désormais tous les âges me diront bienheureuse. Ça, c'est pas de la petitesse. Non, rester petit à ses propres yeux est une vertu qu'on nomme humilité, mais dans la mesure où elle ne dégénère pas en pusillanimité. Pusillus, ça veut dire tout petit et chétif. C'est-à-dire en un retrécissement de l'âme. Nietzsche, le philosophe bien connu, a fustigé, non sans raison, la vertu qui amenuise. Aux petites gens, petite vertu, lance-t-il. Et il continue, il voudrait persuader mon pied de suivre le tic-tac d'un petit bonheur. Dans Also sprach Zarathustra, ainsi parlait Zarathustra. Ce n'est pas l'humilité dont le Christ et Marie nous ont donné l'exemple. L'humilité chrétienne ne rabougrit pas, elle grandit. Elle est indissolublement confession de ses propres limites et confession, c'est-à-dire de reconnaître, de la puissance de Dieu. Le chrétien n'a pas le droit de s'étioler. Il vit la parole de Jésus « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » et cet autre de saint Paul « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Quand on est légitimement investi d'une autorité, il est de son devoir le plus strict de l'exercer, non en vue de ses propres intérêts, mais pour le service de ceux dont on a reçu la charge. L'autorité n'a jamais à s'humilier, ce qui serait pour elle une forme de déchéance. Ce n'est pas lui interdire le droit à l'erreur, inséparable de tout ce qui est humain, mais cette façon de se déjuger qui ne peut que dissoudre la confiance et ce qu'on appelle aujourd'hui le consensus, c'est-à-dire la cohésion du groupe humain autour de son chef. Au roi, et à tous les responsables ne doit pas manquer l'humilité, qui est la conscience de leurs limites de tous ordres. Mais les formes par lesquelles elle se manifeste, cette humilité, ne doit pas entamer l'autorité elle-même, qui est toujours une sorte de délégation divine. Et en cas de manque grave au devoir de responsable, l'humilité ne saurait être une excuse, comme Samuel le montre clairement à Saül. La faute du premier roi d'Israël est une faiblesse, une attitude démagogique, si l'on veut, mais plus profondément, elle constitue une désobéissance. Saül laisse le peuple emporter le butin, sans doute pour se concilier son armée, mais ce faisant, il s'aliène Dieu. « Pourquoi ?» lui dit Samuel. Pourquoi n'as-tu pas obéi au Seigneur? Pourquoi t'es-tu rué sur le butin et as-tu fait ce qui déplaît au Seigneur? Tel est le reproche que lui lance Samuel. Mais le roi faible se rebiffe et entreprend de justifier son attitude. J'ai obéi au Seigneur, j'ai fait l'expédition où il m'envoyait, j'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Et dans le butin, le peuple a pris en petit et gros bétail le meilleur de ce que frappait l'anathème pour le sacrifier au Seigneur ton Dieu à Gilgal. Reprenons ce texte qu'on a déjà évoqué une autre fois. Saül a bien obéi à Dieu en faisant l'expédition, mais il a enfreint l'ordre exprès d'extermination de l'ensemble. Si l'on trie dans les prescriptions qu'on reçoit, en se fiant à son jugement, ou en agissant qu'à sa tête, que devient l'obéissance? L'hérésie, étymologiquement, n'est qu'un choix que l'on fait entre les vérités révélées, Le mot grec aïrésis, le mot hérésie, signifiant choix. Là aussi, le critère est le jugement personnel, non la parole de Dieu. Et Samuel ne peut accepter les explications de Saül et il précise le reproche de Dieu. Le Seigneur se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices comme dans l'obéissance à la parole du Seigneur? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité plus que la graisse des béliers. Un péché de sorcellerie, voilà la rébellion, un crime de teraphim, c'est-à-dire d'amulette, d'amulette idolâtrique, voilà la présomption. Que peuvent signifier les rites sacrificiels si l'âme n'y est pas? Les holocaustes et les divers sacrifices, en effet, ne sont que des signes sensibles, extérieurs, de l'offrande de soi-même que l'homme entend faire, une sorte de substitut à travers des victimes pour l'offrande qu'on fait de soi-même. Être spirituel et corporel, c'est ce que nous sommes, l'hommage complet que nous devons à Dieu engage à la fois nos sens et notre cœur. Que s'accorde notre esprit et notre voix, recommande saint Benoît dans sa règle à propos de la psalmodie. Et donc il faut penser à ce qu'on dit et non pas réciter comme un perroquet. Le sacrifice principal est celui du cœur, le don intime que nous pouvons faire de nous-mêmes à Dieu. L'Écriture tout entière fait écho à ce reproche de Samuel à Saül. Le Seigneur n'a que faire des sacrifices si le cœur n'y est pas. C'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices, déclare le Seigneur par la bouche du prophète Osée, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes.